Frères et sœurs, parmi les expériences que nous faisons en ce temps de confinement, une chose est sûre, et elle est confirmée, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Évidemment, il y a des exceptions. Vous connaissez peut-être Sylvain Tesson, cet écrivain explorateur, qui n'a pas eu peur de rester seul des jours et des nuits entières pour traquer la panthère des neiges, dans l'univers hostile de l'Himalaya par moins de 30 degrés. Et il en a fait son dernier livre d'ailleurs. Mais justement, celui qui pourrait représenter le loup solitaire dans son excellence est en fait un parfait animal social, très habitué aux médias. Et s'il est écrivain, c'est bien qu'il veut partager à d'autres, nous, les lecteurs, son expérience. Ainsi, durant ces jours, nous expérimentons le besoin des autres, le besoin de relations. Et ces relations se font d'ailleurs parfois plus fréquentes, même si elles passent par le téléphone ou par Internet. Au contraire, certains expérimentent aussi que la solitude est bien l'une des plus grandes maladies de notre société moderne. Elle engendre beaucoup de souffrances et peut malheureusement conduire à la détresse. Même ceux qui vivent ce confinement en famille sont heureux de communiquer avec d'autres, au-delà du cercle familial. Ainsi, cette semaine, nous avons fait notre première réunion d'équipe Notre-Dame par vidéoconférence. Et ce fut un beau moment de partage pour les familles comme pour moi-même. Ne nous étonnons donc pas que ce qui nous est rapporté par l'Écriture dès tout début de la communauté chrétienne, cette communauté juste post-résurrection, sont des expériences de communauté grandissante. Et il me semble nécessaire de développer ces deux termes. D'abord, qu'est-ce qu'une communauté chrétienne ? La première réponse est dans l'Évangile de ce dimanche. Une communauté chrétienne, c'est un groupe d'hommes et de femmes réunis autour du Christ. Voilà le début de l'Église. Les éléments complémentaires peuvent nous être apportés par la lecture des Actes des Apôtres. C'était notre première lecture ce dimanche. Et en particulier ce passage d'Actes 2, 42-47, que personnellement je connais à peu près par cœur et que nous devrions tous connaître, puisqu'il est les fondements, le début d'une première communauté chrétienne, le début de l'Église. Alors que pouvons-nous y retrouver ? Eh bien, il est décrit dans les Actes que les frères et les sœurs se retrouvaient autour de l'enseignement des apôtres, de la fraction du pain, des prières, d'une vie ensemble et de la mise en commun des biens, et d'un partage en fonction des besoins de chacun, et puis de la louange. Remarquez peut-être que nous trouvons là les quatre essentiels dont vous commencez à avoir entendu parler depuis quelques années. Les quatre essentiels d'une communauté chrétienne, donc l'adoration, la prière, la louange, le service des frères, la fraternité vécue ensemble, et puis la formation, la lecture de l'Écriture. Si vous remarquez bien, j'ai volontairement oublié un dernier point, qui est la fin. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. C'est l'évangélisation. Mais je vais y revenir tout à l'heure. D'abord, nous pouvons nous questionner, chacun d'entre nous et nos communautés chrétiennes, sur la présence de ces cinq piliers dans notre vie de chrétien ou pas. À la fin de l'année pastorale, nous ferons un bilan paroissial qui sera autour de ces cinq piliers. D'ailleurs, ce temps de confinement est un révélateur pour nous-mêmes et pour nos communautés peut-être. Quelle formation ai-je pu prendre ? Quel temps de prière ai-je vécu ? Quelle fraternité ai-je pu vivre avec d'autres ? Enfin, quel service ai-je rendu ? Il y a des choses que nous avons initiées, de magnifiques exemples qui pourraient être mis en valeur. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du curé et qui peuvent être mises en œuvre de manière tout à fait individuelle. La vie d'une communauté chrétienne est donc fondée sur cela. Mais les textes de ce dimanche nous montrent que le propre d'une communauté chrétienne ne pourrait être complet si on oubliait qu'elle est une communauté grandissante, une communauté ouverte. Et je crois important d'insister là-dessus. La première évocation est dans l'Évangile. Le premier réflexe des apôtres, après la mort de Jésus et l'annonce de sa résurrection, mais y croit-il vraiment au début ? Donc leur premier réflexe, c'est de s'enfermer. Les portes étaient verrouillées, précise l'évangéliste. Pourquoi ? Par crainte des Juifs. C'est la peur qui verrouille, c'est la peur qui enferme, c'est la peur qui même tue toute initiative. Mais Jésus ressuscité, lui, se moque de ces verrous et de cette peur. Jésus vint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». L'évangéliste décrit cette arrivée de Jésus comme si tout était normal. Et c'est vrai, car que serait cette assemblée restreinte si Jésus n'était pas au milieu d'eux ? Quel avenir aurait-elle ? Sans doute aucun, et je ne serais pas à vous parler aujourd'hui. C'est la présence du Christ qui ouvre un avenir à une communauté, à la communauté des chrétiens, à la primitive Église. Puis d'ailleurs, cette communauté, cette toute petite communauté des apôtres réunie au Cénacle va s'ouvrir d'un nouvel invité, pourrait-on dire, c'est saint Thomas, qui nous est présenté dans l'évangile de ce dimanche. Les actes des apôtres, ensuite, prennent le relais pour expliquer que la petite communauté de base grandit chaque jour avec de nouveaux membres. C'est un point extrêmement important que l'on a peut-être mis un peu de côté pendant quelque temps. Oui, on a vécu le service, la fraternité, la formation et la prière de toutes ses formes, dans toutes ses formes, mais on a peut-être oublié que notre Église devait être faite pour évangéliser, pour grandir, pour accueillir de nouveaux membres. Bien sûr, il y a un certain nombre d'années, tous les Bretons étaient catholiques, ou presque, mais une communauté n'est vraiment chrétienne que si elle s'adjoint de nouveaux membres. Saint Pierre le dit autrement. Il écrit « Vous exultez de joie car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » Les apôtres et nous aujourd'hui, nous avons reçu la foi de Jésus, mais c'est afin d'aller l'annoncer, la proclamer. Cela s'appelle l'évangélisation. Paul VI, dans un très beau texte, qui a été ensuite repris par le pape François en particulier, rappelle qu'évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser, écrit-il. Ainsi, toute l'Église reçoit mission d'évangéliser, et l'œuvre de chacun d'entre nous, est importante pour le tout. Fin de citation. Si le pape François insiste lui aussi beaucoup, très fortement sur cette dimension d'évangélisation, aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, c'est bien qu'il a compris que c'est un impératif pour notre Église, pour nos communautés chrétiennes, ici, en Bretagne, et même nos paroisses Saint-Armel et Saint-Léonard. Nous devons cesser de nous lamenter sur telle ou telle absence ou manque, mais nous devons aller au carrefour du monde annoncer la bonne nouvelle avec audace. Juste avant le confinement, j'ai fait une rencontre étonnante. Par l'intermédiaire d'un ami prêtre, j'ai rencontré Gilles. Eh bien, Gilles, figurez-vous, est un pasteur baptiste, donc d'une église protestante. Et Gilles, il vient de s'installer à Bru, avec femme et enfants, car il a la mission de fonder une paroisse en Bretagne. Gilles, sa femme et ses enfants ne sont pas bretons, ils viennent du sud de la France. Ils ne connaissent ici quasiment personne. Mais c'est la mission d'annoncer l'Évangile qui l'a entraîné ici. Et on sent chez lui la même ardeur qui brûlait saint Paul lorsqu'il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». Frères et sœurs, nous avons la chance, encore une fois, d'avoir reçu la foi, pour beaucoup, à notre berceau. Certains l'ont découverte ou redécouverte plus récemment. D'autres encore cheminent dans cette foi chrétienne. Je pense à nos deux catéchumènes, Nadia et Samira, qui vont, je l'espère, être baptisés très bientôt. Voilà notre joie, que chaque jour, des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, soient touchés par le message d'amour du Christ. Qu'ils soient, pourrait-on dire, pour être dans le ton de ce moment, contaminés par cet amour. Mais c'est une contamination sans danger. Par contre, on ne l'attrape pas comme cet affreux virus. On ne l'attrape pas sans le savoir ou par hasard. Il faut rencontrer des témoins, il faut rencontrer le Christ. Ils reviendront les jours heureux, nous a-t-on promis en plus haut lieu de l'État au début de la semaine dernière. Nous le souhaitons tous. Mais ce bonheur, frères et sœurs, est déjà en nous. c'est le Christ ressuscité. Même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, écrit saint Pierre, vous exultez de joie. Cette joie, nul ne pourra nous la ravir. Cette joie, elle est communicative. Cette joie, elle sauvera le monde. Amen.